Quand l'Esprit de Dieu est là, il se passe forcément quelque chose. Quand l'Esprit de Dieu est là, l'atmosphère change. Quand vous arrivez quelque part et que l'Esprit de Dieu est en vous, et l'Esprit de Dieu est en vous, l'atmosphère change. Moi, j'ai beaucoup de témoignages qui souvent... il se passe quoi, là? Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Dieu est là. Dieu est là et Dieu a des projets pour chacun de nous. Personne n'est mis de côté. Il n'y a pas de chômage dans le royaume de Dieu. Et il n'y a pas plus grande satisfaction que de servir Dieu. Qui est d'accord avec ça? Amen. Et on va voir, c'est quoi le service de Dieu? Qu'est-ce qu'on entend par servir Dieu? Avez-vous déjà expérimenté cette joie de voir Dieu à l'œuvre? Amen. D'être utilisé par lui. Il n'y a rien de comparable à cela. Quand vous êtes utilisé par le Seigneur et que vous avez cette attitude à ce moment précis que vous êtes dans le plan de Dieu, vous vous dites, c'est ça. Je sais maintenant. C'est là ma place, c'est là ma vision pour ma vie. C'est là mon identité, c'est là ma raison d'être sur cette terre. Je sais pourquoi je suis là. Pourquoi j'ai été conçu? Pourquoi je suis né? Ça nous arrive dans notre vie de nous demander pourquoi, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Pourquoi je suis là? Ma vie est tellement fade. Et ça nous arrive aussi, nous, dans notre vie de chrétien, de passer par ces moments. Nous avons été créés pour bien plus que nous-mêmes. Si nous vivons pour nous-mêmes, nous vivons une vie de frustration, une vie ennuyante. Parce que nous vivons pour un but qui n'est qu'à la hauteur de nous-mêmes. Mais nous sommes créés pour un but qui est bien plus grand que nous. Nous avons besoin d'un but plus grand que nous. Pour nous faire sortir de notre zone de confort, pour nous faire sortir de notre petitesse, pour nous amener à nous dépasser, pour nous amener à nous surpasser. Si nous pensons que notre vie consiste à avoir une bonne éducation, à avoir un bon travail, à gagner de l'argent, à arriver à la retraite et mourir, je pense qu'on passe à côté d'un certain nombre de choses. Notre vie est bien plus grande, votre vie est bien plus grande que notre carrière ou que toutes ces choses. Elle a une signification qui va bien plus loin et bien plus loin jusque dans l'éternité, frères et sœurs. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut vous utiliser. Qui, moi? Nous avons été créés pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous allons voir ce matin que Dieu veut utiliser tout le monde, et c'est en vertu de sa grâce. Romains 6, 13 nous dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Le problème est là. C'est que beaucoup pensent secrètement que le Seigneur ne peut pas les utiliser. Ouais, le Seigneur peut utiliser ce frère-là, ou cette sœur. Pas moi. Alors ils se sentent disqualifiés, ou non qualifiés. On a les deux cas de figure. Disqualifié parce que je connais mon passé. Je sais toutes les bêtises que j'ai faites. Je connais tout ce qui ne va pas dans ma vie. Et à cause de cela, Dieu ne peut pas m'utiliser. Ce n'est pas possible. C'est faux. Et on va le voir. Certains se sentent non qualifiés. J'ai aucun talent. Je n'ai pas le don de ce frère ou de cette sœur. Je n'ai pas cette capacité. Je n'ai pas cette éducation, ce bagage. Je ne sais pas parler. Ça ne vous rappelle rien? Je n'ai pas cette expérience. Toutes ces pensées, ces raisonnements sont des mensonges. Car Dieu veut utiliser chacun de nous. Il veut vous utiliser. Il veut vous employer à son service. Peu d'êtres humains ont été utilisés par Dieu comme l'apôtre Paul. Et la parole de Dieu est remplie d'exemples. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Pourtant, son passé n'était pas glorieux. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, Paul nous donne quatre clés pour être utilisés par Dieu. Si nous voulons voir le Seigneur à l'œuvre dans nos vies, qui veut voir le Seigneur à l'œuvre dans sa vie? Si nous voulons le voir à l'œuvre dans nos vies, si nous voulons que notre vie ait du sens, qu'elle ressemble au but pour lequel nous avons été créés, alors nous devons comprendre ces quatre points que nous allons voir ce matin. Premièrement, avoir conscience que tout est grâce. Tout ce que nous avons, c'est le fruit de la grâce de Dieu. La grâce, c'est obtenir le pardon qu'on ne mérite pas et échapper au châtiment qu'on mérite. Le Seigneur nous traite en usant de sa grâce à chaque seconde de notre vie. Nous devons comprendre une chose, c'est que tout ce que fait Dieu en nous, il le fait par grâce. Tout ce que fait le Seigneur pour nous, il le fait par grâce. Tout ce que fait le Seigneur avec nous et par nous, il le fait par grâce. Tout ce que fait le Seigneur au travers de nous, il le fait en vertu de sa grâce. Personne ne mérite rien. 2 Corinthiens 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Alors, certains pensent que le ministère se restreint à une catégorie de personnes. Non. À chaque fois que vous mettez en pratique les dons que le Seigneur vous a donnés, vous êtes au service des autres, vous exercez un ministère. Diakonia, en grec, ça veut dire service. Ce n'est pas quelque chose qu'on exerce uniquement dans l'Église, mais que nous pouvons également exercer au profit des gens du monde. Tout le monde a un ministère. Chacun d'entre nous est ministre ou serviteur. Quelle que soit votre situation, frères et sœurs, lorsque vous utilisez votre talent ou vos talents pour servir le Seigneur, vous êtes un serviteur, vous êtes un ministère. Alors je dois préciser quand même que je ne parle pas bien sûr des ministères au sens des cinq ministères d'Éphésiens 4, mais ministères au sens de service, parce qu'effectivement, le Seigneur a instauré cinq ministères que vous connaissez. Votre travail peut être un ministère parce que vous le faites en montrant que vous aimez Dieu. Vous avez été créé pour avoir une contribution dans le travail pour le royaume de Dieu. Et l'erreur que nous faisons est de croire que Dieu nous a créés juste pour nous. Non, nous avons été créés pour quelque chose de bien plus grand que nous. Et tout cela, c'est en vertu de la grâce que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Amen. Quand j'ai compris que tout dépendait de la grâce de Dieu, je comprends également que je n'ai plus à prouver ce que je vaux. Je n'ai plus à prouver ma valeur aux yeux de qui que ce soit. Ce que je vaux n'a rien à voir avec ce que je fais. C'est un fait que ce que Jésus a fait pour chacun de nous prouve à lui seul la valeur que nous avons. Quand je comprends la grâce, je ne tombe plus dans le piège de la recherche de la performance, parce que je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Mon frère, ma sœur, vous avez la valeur du sang que Jésus-Christ a versé pour vous. Votre valeur est inestimable. Votre valeur est inestimable. Le Fils du Dieu vivant a donné sa vie pour chacun de vous. Voilà votre valeur. Parce que Dieu m'aime d'une manière inconditionnelle, et si quelqu'un ne m'aime pas, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Statistiquement, il y a 10% des gens qui ne nous aiment pas. Il y a 10% des gens qui ne m'aiment pas. C'est comme ça. Ben, c'est leur problème. Dieu m'aime. Et je n'ai pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre, parce que Dieu m'aime et je suis dans sa grâce. Je n'ai même plus à me culpabiliser pour les erreurs du passé. Combien sont enfermés dans un esprit de culpabilité pour ce qu'ils ont commis il y a plusieurs années peut-être? Pour ce qu'ils ont commis et que le Seigneur leur a pardonné. Le diable veut nous maintenir dans la culpabilité. Tu es bon à rien. On ne fera jamais rien bien, quelque chose de bien de toi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous dit 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si ces péchés ont été confessés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et les enfouir au plus profond des mers. Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouais, mais Philippe, tu connais pas mon passé. Tu sais pas ce que j'ai fait. Tu as demandé pardon ? Le Seigneur t'a pardonné ? Alors, ce que tu as fait n'a plus d'importance. Paul, qui a été utilisé par Dieu pour écrire la moitié du Nouveau Testament, a un passé terrible. Il a été un vrai terroriste chrétien avant d'être ce qu'il est devenu pour le service de Dieu. Vous rendez-vous compte que l'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre Paul, tuait des chrétiens. Il était présent lors de la lapidation d'Étienne. Il était témoin et il n'a rien fait. Et il dit dans 1 Timothée 1, versets 12 à 14, « Je remercie le Christ Jésus notre Seigneur. Il m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service et il m'a donné la force nécessaire. Pourtant, avant, je l'avais insulté, je l'avais fait souffrir, j'avais été violent. Mais Dieu a eu pitié de moi. J'agissais ainsi sans savoir ce que je faisais. En effet, je ne croyais pas au Christ. Mais la bonté de notre Seigneur pour moi a été immense. J'ai reçu la foi et aussi l'amour qui vient du Christ Jésus. » Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce texte ? Que notre passé ne préjuge pas de notre présent. Le passé, c'est le passé. Peu importe ce que nous avons fait. Peu importe ce que l'apôtre Paul a fait. Même si ça a laissé des traces, ça n'a pas empêché le Seigneur de l'utiliser. Le Seigneur n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous utiliser. Et heureusement, hein. Sinon je ne serais pas devant vous. Qui est parfait ? Personne ne l'est. C'est pas parce que je suis devant vous, c'est pas parce que je suis plus sanctifié, c'est pas parce que je suis meilleur, que je suis plus ceci ou cela. Dieu utilise ceux qui veulent le servir avec la conscience que rien ne vient d'eux-mêmes, mais seulement de lui, de sa grâce. Le Seigneur savait que Paul avait commis de telles atrocités. Rappelez-vous qu'il avait observé la lapidation d'Étienne, comme je viens de le dire. D'autres exemples, Abraham était vraiment vieux. Jacob était un menteur chronique. Et Dieu l'a utilisé. Joseph a été abusé. Rahab était une prostituée. Dieu l'a utilisé en dépit de ses erreurs. Jonas était peureux. Élie avait des pensées suicidaires. Jérémie était dépressif chronique et Dieu l'a utilisé. David a eu un différend et pas des moindres avec le mari de celle qu'il allait épouser. Il a quand même assassiné. Et Dieu l'a utilisé. Il a écrit le livre des psaumes, et bien plus encore. Alors, quoi que vous ayez fait, cela ne vous disqualifie pas. Donc il va falloir chercher une autre excuse. Thomas avait des doutes. Matthieu s'inquiétait beaucoup. Dieu les a utilisés. La femme samaritaine a eu plusieurs maris. Timothée était timide. Moïse, David et Paul étaient tous trois coupables de meurtre. Dieu les a utilisés, frères et sœurs. Qu'avons-nous fait qui nous disqualifie ? Quelles sont nos excuses ? Pourquoi ne pouvez-vous pas être utilisés par Dieu ? Tout péché a un passé, tout pécheur a un avenir. C'est pas mal la formule, c'est pas de moi. Tout péché a un passé, il est enfoui au plus profond des mers. Tout pécheur que je suis a un avenir avec le Seigneur. Amen. Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et dans une autre version, la Bible Parole de Vie, ce même verset dit « Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. » Premièrement, reconnaître que tout est grâce. Tout est grâce. Et vient de la grâce de Dieu. Deuxièmement, nous devons être nous-mêmes. Nous ne sommes pas appelés à être quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Nous ne sommes pas appelés à être la pâle copie d'un tel ou d'une telle. Dieu veut vous utiliser comme vous êtes. Il ne veut pas que vous soyez quelqu'un d'autre. Et il n'a jamais dit à personne, « Hé, pourquoi tu ne peux pas être comme Moïse ? Pourquoi n'es-tu pas plus comme ta sœur, comme ta mère, comme ton père, ton frère ? C'est toute la famille. » Dieu ne veut pas que nous nous comparions à qui que ce soit pour être nous-mêmes. Et je vais vous dire, si vous n'êtes pas vous-même, qui sera vous ? Bizarre comme formulation. Qui peut être plus moi-même que moi-même ? Personne ne sera vous-même, parce que nous sommes tous uniques, créés à l'image de Dieu. Beaucoup pensent, pour être ce que Dieu veut que pour être ce que Dieu veut que je sois, je dois être comme un tel, comme celui-ci ou comme celle-ci. Non, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent. Nous avons tous nos caractères. Et j'ai le mien. Dieu veut que nous soyons nous-mêmes. Pas besoin de porter de masque. Sans mauvais jeu de mots avec le contexte, évidemment. Ceux qui essaient d'être quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Ça, c'est la grâce. Dieu nous aime tel que nous sommes. Quand on essaie d'être quelqu'un d'autre, on vit dans le stress. On a peur d'être dévoilé, d'être découvert. Si jamais j'étais démasqué. Et nous risquons le pire, d'être manipulé par les autres. Et c'est ce qu'on enseigne à nos enfants en leur disant... À l'école, soyez vous-même. Le désir d'appartenir à un groupe, parfois, nous amène à ressembler au groupe et pas forcément avec le désir de faire les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Soyons nous-mêmes. 2 Corinthiens 4, 2, nous avons rejeté les moyens malhonnêtes qu'on utilise en se cachant. Nous agissons honnêtement et nous ne déformons pas la parole de Dieu. Au contraire, nous montrons clairement la vérité et ainsi nous faisons appel à la conscience de tous devant Dieu. Je suis complètement transparent, dit l'apôtre Paul. Je ne manipule pas la vérité, dit-il. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être utilisés par le Seigneur, mais nous avons besoin d'être authentiques, d'être vrais, d'être sincères. Dieu veut nous utiliser en dépit de nos imperfections. Je n'ai rien à cacher, je suis complètement transparent. Ce que tu vois, c'est ce que je suis. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dans la bouche de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont choqués souvent de ce décalage entre ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ce qu'ils observent dans certains milieux religieux de la part de certains. Vous avez déjà vu ça ? On vous a déjà dit ce décalage qu'il peut y avoir entre les actes. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et le Seigneur Jésus lui-même a de nombreuses reprises à fustiger les pharisiens en leur disant, vous retenez la vérité captive, vous mettez sur le dos des gens un joug que vous-même n'êtes pas capable de porter. Soyons nous-mêmes. Soyons authentiques. Nous qui sommes imparfaits, pourquoi cacher nos imperfections ? D'ailleurs, quand vous connaissez mes imperfections et que vous voyez comment Dieu est capable de m'utiliser, c'est plutôt encourageant, n'est-ce pas ? Car vous avez la démonstration qu'il peut aussi vous utiliser malgré vos imperfections. Si je cache mes défauts, Vous avez vu comme je suis, vous avez vu comme je suis beau, comme je suis grand, comme je travaille bien, comme je... alors qu'est-ce que, c'est quoi la réaction? Dis donc, il est un peu orgueilleux, cet homme-là. Et vous aurez raison de dire ça. En revanche, si je dis voilà, très honnêtement, là je suis mauvais, là j'y arrive pas, là je suis tombé, mais Dieu a fait ça. Dieu a agi de telle manière. Et c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui. Vous avez toutes les bonnes raisons de louer le Seigneur et de lui rendre gloire. Il ne s'agit pas ici de faire l'apologie du péché, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit de reconnaître une fois de plus que l'on ne peut rien faire sans Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. Les hommes ne grandissent pas grâce à leur propre force. Ils progressent dans leur faiblesse. Amen. Une des barrières qui nous empêche de faire la volonté de Dieu, c'est la peur d'être nous-mêmes. La peur que l'on nous voit tel que l'on est parce qu'on ne veut pas montrer nos faiblesses. Parce que si je montre tel que je suis, je risque de ne plus être aimé. Ah, on ne va plus m'aimer. Alors je vis derrière un masque, derrière un mur qui m'empêche d'être en relation avec les autres. L'antidote, frères et sœurs, consiste au contraire à me montrer tel que je suis. À faire la démonstration que la présence de l'Esprit de Dieu est en moi. Que la présence de Dieu par son Esprit est en vous. Je réalisais alors que Dieu m'aime d'une manière inconditionnelle et il ne cessera jamais de m'aimer. Le Seigneur ne cessera jamais, jamais, jamais de vous aimer. Quel que soit votre passé, votre présent, votre futur, son amour ne changera jamais pour vous. Troisièmement, se souvenir de qu'il ne s'agit pas de moi. Alors ça veut dire quoi? De Timothée 1, 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. À chaque fois que l'on perd de vue ce verset, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous perdons de vue la mission que le Seigneur nous donne et que cette mission nous dépasse. Et même si elle nous implique, bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu qui agit au travers de nous. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de l'Esprit de Dieu qui agit au travers de nous. Ce ne sont pas nos propres forces qui agissent. Mais c'est bien la puissance de Dieu et elle seule. Si nous perdons de vue cette parole, nous risquons de verser dans la peur chronique et l'amertume. Car si la peur nous empêche de faire des choses, si la peur nous empêche d'agir, alors nous sommes esclaves de nos peurs. Et comme la parole de Dieu le dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Est-ce qu'il y a des peurs dans votre vie qui vous empêchent d'agir? On a tous des craintes, hein. On a tous des peurs. Et je ne suis pas épargné, évidemment, moi qui suis devant vous. Mais ces craintes, ces peurs, nous empêchent-elles d'agir? J'attends pas de réponse, mais je vous invite à réfléchir sur cette question. Quand nous oublions que le Dieu que nous servons nous dépasse, nous prenons tout personnellement. Comme si les situations étaient dirigées vers nous ou contre nous. 2 Corinthiens 4, 5 nous dit « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. » Et nous nous disons « Vos serviteurs à cause de Jésus. » Dans notre société, tout est dirigé vers l'individualité. Tout est fait pour nourrir l'égocentrisme, l'égoïsme, le narcissisme. Dans notre monde, on nous promet le meilleur pour nous. C'est difficile de ne pas vivre une vie centrée sur soi dans notre culture parce que toute notre économie est basée sur l'individualité. Vous êtes d'accord avec ça? Nous ne sommes pas le centre de l'univers. Dieu est le centre de l'univers. Amen. Dieu est le centre de l'univers. Le Seigneur est davantage intéressé par nos motivations qui proviennent de ce que nous faisons pour lui que la chose elle-même. On peut faire de magnifiques choses, on peut faire de grandes choses pour Dieu. Mais quelle est la motivation pour les faire? C'est les pourquoi. Pourquoi je fais ça? Qui est bien plus important que le quoi. Le Seigneur nous montrera à ce moment-là, quand on sera plus intéressé par le pourquoi je fais ça, il nous montrera le comment. Pourquoi je fais ça? Quelle est ma motivation? Est-ce que c'est pour ma propre gloire ou c'est pour celle de Dieu? Est-ce que c'est pour ma réussite ou est-ce que c'est pour celle de Dieu? Est-ce que c'est pour avoir la reconnaissance? Est-ce que c'est pour avoir de l'importance, de la célébrité? Ou est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? 2 Corinthiens 4, 7 nous dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Nous sommes, frères et sœurs, des vases de terre. Certains pensent que le Seigneur veut utiliser leur propre force. Il peut le faire, mais c'est dans nos faiblesses qu'il se glorifie, bien plus que dans nos capacités. Pourquoi? Parce que si c'est dans ma capacité, je peux dire « Hey, t'as vu comme j'étais bon là ?» Non, non, c'est Dieu qui agit. Si on laisse Dieu agir dans nos faiblesses, lui seul sera glorifié. Laissez Dieu agir dans nos souffrances, c'est le quatrième point. Paul a traversé de nombreuses difficultés dans la course qu'il courait pour le Seigneur. Nous traversons tous de grandes difficultés. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 30. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Oui, nous souffrons, et je finirai avec ça. Oui, nous souffrons. Nous sommes parfois ébranlés, même très fortement dans nos membres et dans nos âmes. Mais quand on lit ce que Paul a vécu, et quand on sait ce que le Seigneur Jésus lui-même a souffert pour le salut de l'humanité, pour notre salut, cela nous aide à rester concentrés sur l'éternité. Cela nous aide à rester concentrés non pas sur les choses visibles, qui sont passagères, mais sur les choses invisibles qui sont éternelles. Quand nous comprenons, frères et sœurs, la grandeur du plan de Dieu pour l'humanité, les quelques difficultés que nous rencontrons deviennent dérisoires, si grandes soient-elles. Si nous posions la question à Paul aujourd'hui sur ce qui l'a motivé au travers de toutes ses souffrances et difficultés, je pense que sa réponse serait la même pour témoigner de l'Évangile au monde, pour témoigner de la grâce de Dieu au monde, pour témoigner de la gloire de Dieu au monde. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il souffert jusqu'au calvaire sur la croix? Pour sauver chacun des êtres humains qui accepteront le sacrifice qu'il a fait pour lui, par amour. Alors frères et sœurs, si ce matin vous vous dites « Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas qualifié, je suis disqualifié, Dieu ne peut pas se servir de moi. » Souvenez-vous de tous ces exemples qui ont été cités, de Paul, de Moïse, je ne vais pas tous les reciter, tous ceux qui ont été utilisé par le Seigneur d'une façon extraordinaire. Et Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec ces exemples qu'il nous a donnés dans sa parole, il veut aussi le faire avec chacun d'entre vous. Quel que soit votre passé, quels que soient vos défauts. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. Pour témoigner dans ce monde qui se noircit de plus en plus, qu'il a prévu un plan de salut pour l'humanité en Jésus-Christ. Je l'ai témoigné quand je vous ai parlé de ma mission en Afrique, de voir la façon dont Dieu agit de façon extraordinaire quand on le laisse agir. Seigneur, rends-nous spectateurs de ce que tu vas faire au travers de chacun de nous. Est-ce que vous avez envie de ça? Église de Jésus-Christ, est-ce que vous avez envie de voir Dieu à l'œuvre, être spectateur de ce qu'il va faire au travers de vous? Vous allez pouvoir dire, Seigneur, il n'y a que toi qui as pu faire ça. Tu m'as utilisé alors que j'étais capable de rien. Waouh, tu es grand. Utilise-moi encore, Seigneur, je veux te voir à l'œuvre. Dans tous les détails de ma vie. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Pas pour me servir moi, pour servir ton royaume. Parce que tu vas bientôt revenir, Seigneur. Je ne sais pas quand, et je n'ai pas à le savoir. Mais je veux être prêt. Je veux être participant au retour de ton règne. Je veux voir des âmes qui te rencontrent. Je veux voir des hommes et des femmes qui soient réconciliés avec toi par Jésus-Christ. Je veux voir ton salut rentrer dans les vies. Glorifie-toi, Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te servir parce que je réalise que c'est là le but de ma vie. Je réalise que c'est pour ça que tu m'as créé, Seigneur. Oui, je suis dans ce monde. Je dois manger, je dois vivre, je dois m'occuper de choses très terre-à-terre, très terrestres. Je suis dans ce monde, mais Seigneur, tu dis, je ne suis plus de ce monde. Nous ne sommes plus de ce monde, Seigneur. Et les temps pressent et tu presses, Seigneur, ton esprit nous presse de racheter le temps. Parce que les jours sont comptés. Seigneur, je te remercie parce que tu as pardonné nos péchés. Tu t'es sacrifié à la croix. Personne ne t'a pris la vie, Seigneur. Tu l'as offerte en sacrifice pour chacun de nous. Alors délivre-nous de cette culpabilité parfois qui nous environne, qui nous empêche de bouger. Délivre-nous de nos peurs. Fais-nous, Seigneur, réaliser ce matin encore plus que l'enjeu, ce n'est pas nous, mais c'est toi. Montre-nous tel que nous sommes. Montre-moi tel que je suis, Seigneur, à tes yeux, pour mieux te servir. Montre-nous tel que nous sommes, Seigneur, afin que tu puisses te glorifier en chacun de nous. Utilise les vases de terre que nous sommes, parfois un peu fêlés. Mais ta lumière rentre au travers de ces meurtrissures, Seigneur. Au travers de toutes nos souffrances, c'est ta lumière qui rentre, c'est ta gloire, Seigneur, qui resplendit. Aide-nous à être nous-mêmes, à être sincères, à être authentiques, afin que nous ne jouions pas un jeu, Seigneur, qui soit faux. Mais que nous soyons le reflet de ton esprit qui est en nous. Je te remercie, Seigneur, pour ton Église. Merci pour tes projets que tu as pour elle. Parce que tes projets sont glorieux. Parce que nous allons voir ta gloire, Seigneur, dans nos vies. Nous allons voir ta gloire dans ton Église. Béni sois-tu, Père. Amen.